qui m'a frappée chez Nicole Trudeau, c'est son caractère combatif qui fait en sorte qu'elle s'est jamais laissée réduire à son handicap et elle a su faire sa place dans une société qui est vraiment pensée pour les voyants. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on me dit souvent que je suis une source d'inspiration, que je suis donc courageuse. Bien, j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se font souvent dire « Je sais pas comment tu fais ». J'ai le bonheur d'avoir avec moi une femme qui a su faire sa place et briser les barrières à sa façon, malgré le rejet qu'elle a pu ressentir dans sa vie en lien avec sa cécité, dans un monde qui, on doit se le dire, est trop souvent pensé pour les voyants. Je reçois aujourd'hui Nicole Trudeau, une grande passionnée d'art et de culture. Bonjour, Nicole.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Là, je vais faire un petit peu de vidéo description là, pour les gens qui nous écoutent, parce que vous êtes vraiment en beauté. Ça me semble être quelque chose qui est important pour vous parce que vous êtes bien mise. Toutes les fois où on vous a vu, vous étiez très bien mise. Vraiment, clairement coquette. C'est quelque chose qui est important pour vous, la beauté?
Oui. Oui, c'est très, très important. C'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, un peu dans tous les domaines. J'aime. C'est difficile d'expliquer ce qui est le beau, mais c'est plus un sentiment d'équilibre, de sensibilité, d'harmonie, oui. Surtout. Autant dans notre façon d'être ou de toute façon être bien mise, pour moi c'est comme une sécurité, c'est quelque chose qui me rassure, c'est quelque chose qui me donne confiance et j'aime pas juste la beauté, la mode, oui j'aime bien ça, mais j'aime tout ce qui me touche, tout ce qui me rejoint, tout ce qui est harmonieux. Les arts, les ambiances, la nature. C'est comme un besoin, un état d'être, oui. Au fond. Un état émotionnel, beaucoup. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi, probablement, au type de sensibilité qu'on a. Et peut-être, pas peut-être, surtout, probablement, à l'éducation qu'on a reçue.
Ah oui, vos parents, c'était aussi quelque chose qui...
Oui, mes parents étaient très fiers d'eux-mêmes, ouais. Très fiers de nous, exigeants aussi, bien sûr, pour que tout soit équilibré, harmonieux, puis aussi probablement développer une confiance en nous, nous faire confiance et avoir le souci d'être bien avec soi-même et avec les autres, et peut-être d'être dans un cas plus particulier aussi accepté par les autres.
Oui, parce qu'il y a souvent un peu de ça. Quand vous dites que ça peut donner confiance également, il y a un peu ça. Quand on sait que les autres nous regardent, quand on sait comment les autres nous perçoivent, je pense que l'aspect de confiance vient aussi du fait qu'on veut, je vais dire, plaire aux autres. Je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais...
Bien, je ne sais pas si c'est plaire aux autres. C'est surtout d'être bien soi-même et d'avoir... confiance en soi. Il faut quand même réaliser que quand on ne voit pas, le miroir ne vous parle jamais.
C'est vrai, oui. C'est...
Donc, s'il n'y a pas de surenchère, je ne veux pas dire faire toujours des compliments, là, mais si personne ne dit jamais rien ou n'encourage pas, ben, tu peux douter. Toujours douter. Est-ce que tu, est-ce que tu parais bien? Est-ce que tu es bien? Est-ce que... alors, je me dis, être sûr ou avoir des critères, par exemple, pour nous-mêmes, pour nous organiser, parce qu'on n'a pas toujours besoin de demander à quelqu'un « est-ce que c'est bien ce que je porte? » Mais on apprend, on a des techniques et tout. Mais si quelqu'un nous dit un mot gentil, dit « oh, ça te va bien cette couleur-là », ben écoute, ça rassure. Hein?
Ça va avoir l'air superficiel, ce que je vous dis, mais vous êtes vraiment magnifique, vraiment, là.
Ben, c'est très gentil, mais tu sais, comme on peut... Moi, je ne peux pas vous contre-vérifier. Je ne peux pas vous dire vous avez tort ou vous avez raison. Je n'ai pas de moyen de faire ça. Le miroir ne me dit rien. Donc, il faut aussi, en tout cas moi-même, m'habituer à faire confiance à ce que l'autre me dit.
Oui,
il faut,
c'est vrai.
Vous me faites un compliment, mais il faut que j'apprenne à avoir confiance en ce que vous me dites. Ou si je me dis non, elle exagère, peut-être elle veut me faire plaisir... Tu sais, il y a toujours une espèce de doute hein, qu'on peut garder quand on ne peut pas contre-vérifier quelque chose.
Mais faire confiance, justement, en les gens, en vos proches, ça doit être encore plus difficile quand on a ressenti ce rejet-là, je vais dire, de la part de la société, mais pas juste de la part de la société, aussi, j'imagine, de certains individus. Le rejet, c'est quelque chose que vous m'avez dit que vous avez ressenti assez rapidement dans votre vie. Où ça a commencé?
Quand on est jeune ou enfant, on n'est pas conscient de ce qui se passe dans notre esprit, dans nos perceptions et tout. Plus tard, on réalise les effets. Moi, comme à l'époque où j'ai fréquenté, j'étais d'âge à être scolarisée, les personnes, toutes les personnes non-voyantes au Québec ne pouvaient pas fréquenter l'école régulière du quartier. Donc, toutes ces personnes-là, donc, pour aller à l'école, fréquentaient une institution spécialisée qui était un pensionnat.
Un pensionnat où vous dormez, là, c'est ça, vous
restez
là?
Oui, un pensionnat où on ne sortait, on ne retournait dans notre famille qu'au moment des vacances, c'est-à-dire l'été, Noël et à peu près 5 jours à Pâques.
Ah, même pas les week-ends?
Non, au début, non, quand je suis rentrée. Donc, j'ai dû quitter ma famille pour être scolarisée, j'ai dû quitter ma famille à 5 ans.
Ouf, quand même.
Et j'y suis restée 15 ans. Dans cette institution-là, c'est une très, très bonne école où on a appris beaucoup de choses et on a fait beaucoup de choses. Par exemple, j'aime à dire que nos éducatrices étaient des gens qui nous faisaient confiance, qui nous enseignaient toutes sortes de choses, qui nous impliquaient dans toutes sortes d'activités, du théâtre, du ballet. Ils ne nous ont pas sous-estimés. Sauf que on était uniquement, sauf les éducatrices, entre personnes plus ou moins malvoyantes. Donc, le contact avec le monde des voyants, on dirait que moi, j'adorais le pensionnat, il faut que je le dise. Pas le pensionnat que j'adorais, mais j'adorais les études, la musique, toutes les activités. J'ai, au fond, probablement investi tout ce que j'aimais dans ces apprentissages-là, ces expériences-là.
Oui, vous aimiez apprendre.
J'étais passionnée.
Wow.
Sauf que le fait de ne jamais, d'être toujours entre personnes non-voyantes, rapidement, j'ai analysé ça plus tard, évidemment, j'ai comme pensé qu'il n'y aurait jamais de place pour moi dans le monde des voyants.
Ah oui,
que je serais confinée à un milieu quand même restreint, fermé. Et je pense que tout au long de ce parcours-là, ça s'est vraiment incrusté profondément. Les non-voyants, ils étaient entre eux, c'était comme... C'était pas eux, les normaux. Les normaux, c'était les voyants.
Ah, c'est comme si vous étiez une classe à part, mettons.
Totalement.
Ah oui.
Et plus j'ai grandi au pensionnant, plus j'étais malheureuse de ça. J'acceptais pas ça. Je voulais côtoyer la société en général, tout le monde.
OK.
Donc, dès le départ, je pense, me suis toujours sentie inférieure. Inférieure aux voyants. Mais tu sais, à l'école, j'étais pas inférieure. J'aimais ça, puis je réussissais bien. Puis, tu sais, ça, je m'épanouissais. Au niveau des apprentissages, je m'épanouissais bien parce que j'adorais ça. Mais le sentiment d'être différente, pas comme les autres, pas perçu capable et tout, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui m'a... C'est comme une injection que j'aurais reçue et que j'ai jamais vraiment complètement perdu. J'ai toujours eu cette espèce de doute de ne pas être accepté ou de ne pas pouvoir être reconnu avec le potentiel que j'avais.
Est-ce que ça a fait en sorte, selon vous, que vous aviez besoin de performer encore plus pour un peu...
Je pense que vous touchez le point sensible.
Ah oui, hein?
Je pense que c'est comme au fond, je souffrais de ça, mais en même temps, je ne l'acceptais pas.
Ouais.
Alors, je me suis toujours battue pour aller aux mêmes endroits que les autres, participer aux mêmes choses. Même si je me sentais pas très bienvenue, j'insistais. Je me suis beaucoup acharnée sur cette dimension-là. Et ce qui m'a quand même... Tu sais, au lieu de m'abandonner, de me dire c'est pas possible, puis je suis malheureuse et tout, je me suis toujours comme, d'une certaine manière, on peut dire, un peu bagarrée pour...
Pour faire votre place.
Bien, c'est pas juste pour faire ma place, pour être reconnue, pas seulement comme une personne voyante, comme une personne telle que j'étais, avec la personnalité que j'avais, les désirs que j'avais, les rêves que je souhaitais. Au fond, je refusais d'être réduite à une personne non-voyante.
Ben oui. Puis sentez-vous que vous avez réussi?
Bon, je m'attendais un peu à cette question-là. Je vous répondrais, est-ce que quelqu'un dans la société atteint son idéal? Bon, c'est sûr que j'ai quand même, tu sais, écoute, là, je me suis pas estompée, je me suis pas effacée.
Ben non, c'est ça.
Oui, j'ai fait une belle vie parce que j'avais beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, et puis que j'ai jamais renoncé, en fait. C'est plutôt ça.
Mais justement, ce sentiment-là, peut-être, de rejet, de se sentir un peu à part, a été en quelque part une motivation dans votre vie pour justement pas vous laisser abattre par ça. C'est-à-dire pas vouloir faire votre place.
C'est-à-dire que je dirais peut-être pas une motivation.
Mais c'est parce que c'est pas une motivation positive.
Parce que j'aurais aimé mieux ne pas être... ne pas me sentir inférieure.
C'est pas positif, mais c'est quand même probablement une des choses qui a fait en sorte que vous avez foncé autant.
Absolument.
C'est ça.
Absolument. Parce que je refusais complètement de... Je me dis souvent, tu sais, si on y pense bien, les gens souvent nous perçoivent comme incapables. Hein? C'est sûr, quand ils nous voient, ils nous pensent incapables de faire beaucoup de choses. Mais je me dis, mais voyons, je veux dire, j'entends, je parle, je peux apprendre, je peux étudier, je peux m'exprimer.
Mais oui.
Je ne suis pas qu'une femme aux yeux fermés qui voit rien.
Ben non.
C'est ça qui... Ça, je ne l'ai jamais... Ben, oui, je peux dire ça. J'ai jamais accepté ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été blessée. Malgré tout, c'est ça qui est dommage. Je suis restée blessée par ça. C'est quand on me dit... Ah! Bon, je vais vous raconter une anecdote.
Allez-y, je veux l'entendre.
C'est quelques jours derniers, je vais au théâtre. Je vais voir Le Misanthrope de Molière. C'est quand même pas un texte silencieux, hein?
Non, pas du tout.
Alors, j'avais des notes avec moi, mes notes en braille, parce que j'avais pris des notes pour suivre un petit peu l'action et tout ça. Alors, mon voisin me demande, « Vous voyez un peu, hein? »
Ah.
J'ai dit, « Non, monsieur. »« Ah bon? Et puis, vous venez au théâtre? »
Ah, ben oui, lui, pour lui, ça se peut pas.
Alors, je me suis calmée, j'ai simplement dit, « Mais monsieur, ça parle. » Écoute, le texte de Molière, quand même.
Mais oui, hein? c'est...
Alors, tu sais, je blâme pas ce monsieur-là. Je me dis, d'abord, c'est très bien qu'il pose des questions, comme ça, il apprend quelque chose.
Tout à fait.
Mais en même temps, je me sens toujours blessée, ou surtout, je pourrais dire, déçue, qu'encore maintenant, et qu'à travers toute ma vie, où j'ai quand même bougé pas mal, je sois encore, tu sais, qu'on perçoive encore que le fait de ne pas voir, tu ne devrais pas être au théâtre. Mais, je veux dire, on a de l'imagination, on entend les choses, on connaît le contexte. C'est ce sentiment-là qui me blesse, c'est la déception de encore maintenant être perçu comme, c'est pas ta place au théâtre, ou qu'est-ce que tu vas retenir? Mais vous, est-ce que vous allez au théâtre juste pour voir? Vous entendez aussi la parole. C'est ce côté-là que je me dis qui est resté un petit peu rebelle en moi et qui fait que je suis portée à... Je n'accepte pas que je sois réduite, même si je ne peux pas profiter de tout. Je peux profiter d'une bonne partie de ce qui est présenté.
Mais oui, puis les gens n'ont pas à décider pour vous ce que vous êtes capable ou non de faire ou de...
Ben, ils n'ont pas à décider, mais ce qui est décevant, c'est que la cécité n'est pas comprise uniquement comme un handicap sensoriel, visuel. C'est comme si tu ne voyais pas, il n'y a rien d'autre qui peut te procurer du plaisir ou par lequel tu peux apprendre ou fonctionner dans la vie. Ça, on parle du théâtre, ça c'est... Mais il y a bien d'autres choses dans le quotidien que les gens ne s'imaginent pas. Ce que qui me déçoit, c'est qu'ils nous sous-estiment, mais c'est qu'ils ne travaillent pas à penser comment on pourrait faire certaines choses autrement.
C'est comme si pour eux, de ne pas voir, il n'y a plus rien qui fonctionne.
C'est exactement.
Ouais.
Et je me dis, comment se fait-il que cette perception-là existe depuis des siècles? Depuis toujours.
Et ça va avec le nom du balado qui est « Je sais pas comment tu fais ». C'est un peu ça, les gens
mais
vont
moi,
se mettre...
Mais moi, je lui répondrais,
ouais,
est-ce que tu as déjà essayé de faire autrement que toi, tu fais? As-tu déjà essayé?
Oui, les gens pensent à... Ils vont s'imaginer si ça leur arrivait, comment, mais sans savoir exactement... Parce que tant qu'on le vit pas, on le sait pas comment ça peut se passer.
Mais moi, je pense qu'on pourrait essayer de se l'imaginer des fois.
Mais justement, qu'est-ce qui a changé, que vous avez vu au fil du temps, qui a évolué peut-être de façon positive ou qui pourrait donner de l'espoir aux jeunes qui aujourd'hui naissent avec une cécité, par exemple, quelque chose qui a évolué ou qu'on peut s'attendre à ce qui change?
Ben, il y aurait deux aspects à cette réflexion-là.
Okay.
Il y aurait, évidemment, puis ce qui se fait à travers votre émission, entre autres, beaucoup plus d'informations.
Mm-hmm.
Et c'est sûr que maintenant que les personnes handicapées, en général, sont souvent beaucoup plus intégrées, enfin, évoluent dans la société avec tout le monde, ne sont pas à part comme nous étions. Nous étions au couvent, mais quand on était au couvent pensionnaire, personne dans la société ne nous voyait fonctionner.
Ben même vos frères et sœurs, là, à l'école régulière, vous ne les voyez même pas.
Exactement. Ouais. Donc, c'est sûr que la communication, le fait que l'intégration progresse quand même, est un facteur qui devrait aussi permettre à la population en général de mieux saisir... qu'il y a des choses possibles, même quand on ne voit pas.
Oui.
Ça, c'est une chose très importante. Puis, il y a aussi les jeunes eux-mêmes qui ne doivent pas démissionner. T'sais, qui doivent être convaincus qu'ils ont le droit de faire les choses. Il faut qu'ils travaillent fort, par exemple. Il ne faut pas se cacher. Aller quelque part, si on te dit, mais non, qu'est-ce que tu vas aller faire au théâtre? Comme moi, je me suis beaucoup occupée des musées aussi, pour l'accès aux musées pour les non-voyants. Ben, si eux décident que non, moi, je n'ai rien à voir là, ça ne m'intéresse pas, je ne vais rien apprendre, je n'y vais pas. Alors, je pense qu'il y a du travail des deux côtés.
Oui.
Puis, il faut dire aussi que quand on a un handicap, il faut reconnaître que dans beaucoup de domaines, il faut travailler beaucoup. T'sais, il faut travailler fort, il faut vouloir, il faut inventer nos solutions. Comme je disais tout à l'heure, moi, c'est ma conviction, il ne faut pas renoncer.
C'est quoi pour vous votre grande réussite, votre fierté? Qu'est-ce qui vous rend fier? Puis que les gens sont peut-être parfois étonnés de savoir que vous avez fait, et pourtant, pour vous, c'est quelque chose qui est naturel, mais qui est une fierté pour vous.
Il y a un événement que j'ai vécu avec une très, très grande fierté dans ma vie. Ça, je ne l'ai jamais oublié. C'est le jour où, à l'amphithéâtre de l'Université de Montréal, je suis allée chercher mon diplôme de doctorat.
Oh!
Ça, j'avoue que ce jour-là, ce moment-là, pour moi, là, c'est peut-être le moment le plus fort où je me suis sentie vraiment fière d'avoir réussi ce parcours-là, évidemment, cet énorme projet qui avait duré des années. Sinon, sur un autre plan moins factuel, je dirais que je suis à la fois fière, mais reconnaissante à la vie d'avoir eu le tempérament que j'ai, c'est-à-dire un tempérament combatif.
Oui.
Ce seraient les deux points forts, je pense, que je pourrais me reconnaître.
Mais chose certaine, en tout cas, avec un témoignage comme le vôtre, je pense que ça peut aider beaucoup à sensibiliser bien des gens. Donc, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir témoigner au balado puis de venir me parler de tout ça. C'est super intéressant de vous entendre.
Bien, c'est moi qui vous remercie. Si ça peut aider certaines gens, j'en serai très heureuse.
Oui, on le souhaite. Merci infiniment. Pour découvrir les autres émissions d'Ami Télé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalf. Invité, Nicole Trudeau. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.